Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
Fuck le Tim Horton.
Quoi?
Va donc au Salon G à la place au Salon G. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salon G, c'est la place pour te sustenter.
Du 7 au 10 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, OOMPH, le festival de la rentrée, en collaboration avec les microbrasseries. Trois brasseurs te proposent 4 jours de musique, humour, art de rue, sport et plus encore. Voyez gratuitement DJ Jazzy Jeff, Low Larry Adjust, Marie-Pierre Arthur, La Bronze, Hidalg, Brown, John Jacob Magistery et une tonne d'autres artistes. Vivez l'expérience festival maximale avec le bracelet exclusif OOMPH en 360. Détails et horaires sur OOMPH.ca.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 109e épisode de Pop en Stock. Bonjour à tous et bienvenue. Pour les gens qui nous écouteraient pour la première fois, en fait, Pop en Stock est une plateforme de recherche et d'observation, si on peut dire, sur des objets et des phénomènes de la culture populaire. Et c'est quand même important de souligner ça par rapport à l'émission, c'est que Hélène et moi, les deux animateurs, nous tentons le plus possible d'inviter des gens qui connaissent correctement le sujet. Il n'y a pas vraiment une volonté chez Pop en Stock de l'improvisation académique. Puis je trouve qu'on ne mentionne pas assez que la masse d'invités qu'on reçoit ici, c'est parce qu'on préfère donner une voix à quelqu'un qui est capable d'intelligemment parler du sujet. Ça explique la présence du monsieur qui joue aux feuilles, que nous introduirons dans peu. Mais d'abord et avant tout, il faut toujours souligner ça parce que c'est des occasions qui sont pratiquement comme des mini-célébrations en soi. Hélène?
Bonjour, bonsoir.
On est en studio ensemble.
Oui, je suis très contente.
Je suis très, très chanceux, moi. Je vais dire, la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant avec Maxime. Là, cette semaine, avec toi.
C'est une question de feeling.
Parlant de question de feeling, le surnom de notre invité, Simon Lapeyrère.
Bonjour.
Ah,
Est-ce qu'on les entendait, mes feuilles?
On entendait des feuilles.
Mais c'est normal, inquiète-toi pas.
On entendait aussi ton cœur qui bat écart.
Mais...
écart. Écart. Simon, qui est un alumni de Choc.
Oui. Oui.
On venait juste de parler de ton émission, ça, je me suis dit, ça valait la peine. Mais aussi...
On m'en parle chaque fois que je reviens à Choc FM.
Yeah. Aussi un essayiste.
Oui, à mes heures.
Assez célèbre maintenant dans le domaine du genre et du mauvais genre.
Ça, je saurais pas dire.
Disons-le quand même, un essai.
As-tu mis des chess?
Ben, pas encore. Ah. Pas encore.
La mesure et talent de la célébrité.
Est-ce qu'il y a des universitaires qui ont déjà fait ça? Est-ce que Umberto Eco a déjà fait ça?
Ben là, tu parles d'un nom en particulier, un universitaire.
Roland Barthes a-t-il déjà signé le chest d'une fanatique de mythologie?
C'est plate parce qu'il est trop tard. On aurait dû le pogner à temps pour ça. Ça aurait été vraiment, vraiment agréable de pouvoir lui poser la question, croquer dans le vif de même.
Mesdames, à la maison, Tsvetan Todorov est toujours en vie. Vous savez quoi faire si vous le croisez dans la rue.
Pourquoi mesdames?
Ben, ça peut, mesdames, messieurs, ouais, chess, tout le monde.
Ouais, ben, je me le fais signer mon chess par Todorov, moi, ça me ferait triper. Surtout, tu sais, velu et tout. Pis...
mais, je suis sûr que ça lui ferait plaisir parce que c'est séparé de Nancy Houston.
Ah, ben ouais, t'es dommage. Oui, c'est vrai.
T'es dommage au courant. Hein?
C'est vrai que j'avais oublié de mentionner le fait que Simon est le king du potin à Calais. Il est très, très, très bon là-dedans. L'érudition, surtout l'école. Oui, la French Theory. Tu connais les secrets de sous les draps.
Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que s'il y avait un 7 jours académique, j'en serais le rédacteur en chef. Et je suis tout à fait d'accord avec ça.
Mais c'est très à propos avec notre thème d'aujourd'hui.
Effectivement.
Qui est. La télé-réalité.
Exact.
Et là, oui, en studio, on parlait tout à l'heure de qu'on ne s'improvise pas, on a invité le pire concurrent ever de l'histoire d'un souper presque parfait, Julien Bernatchez.
Bonjour. J'ai manqué les 5 premières minutes parce que je me sens endormi.
Ah. Littéralement.
Littéralement, chez nous. Ça va tout le monde?
Oui, ça va très, très bien. On est très heureux de te recevoir. On est encore dans, dans l'introduction.
OK, c'est bon, c'est pas trop gênant.
Ben, on peut déjà un peu mieux introduire la télé-réalité. C'est un genre qui existe depuis très longtemps, pratiquement depuis que la télé existe. Au Québec, je pense que une des premières manifestations, ça a été Pignon sur rue à Radio Québec, je crois.
Oui, avec la toune de Kevin Parent.
Ah oui, merci. En 1997, la chanson
Best Of.
Ah, merci beaucoup de cette...
Okay, il y a un best-of.
À chaque fois que je fais de la radio avec toi, j'apprends quelque chose.
Ouais.
Il y a des films aussi qui ont été faits sur les télé-réalités. Louis XIX, Roi des Anges.
Premier remake québécois.
Oui, tout à fait.
Premier?
Oui.
Tabarouette, à chaque fois que t'es là.
Oui, TV par Ron Howard.
Ah, c'est Ron
Howard? Oui, c'est ça. Non, c'était plus le premier remake que j'étais comme, vraiment?
Ben oui, ça a coûté 70 millions, ça en a fait 17.
Ah... Oh.
Aujourd'hui, la télé-réalité, qui est vraiment un genre télévisuel en soi, avec plusieurs catégories, un souhait presque parfait, on pourrait nommer un show de cuisine, de télé-réalité.
Ça me dit quelque chose, ça?
Oui. Star Academy, un show de talent. Tous les shows, en fait, de musique, là, on pourrait appeler ça des shows de talent.
Oui, puis c'est une intéressante... c'est une conversation, en fait, que hier soir, en préparant l'émission, j'ai eu avec Eric Falardeau, collègue de tous, ici.
Ami de Papa Stock.
Salut, Eric!
Où on faisait une espèce de distinction entre la télé-réalité, le show de variété, le spectacle de talent, ainsi de suite, parce que j'argumentais, ou du moins je questionnais, la validité d'intégrer la soirée canadienne dans le corpus de la télé-réalité québécoise, surtout sur le fait que c'était une mise en scène d'une activité culturelle, mais en fait d'une tradition, donc les gens y étaient en jouant leur propre rôle, mais évidemment, si on peut se fier un peu à la dégaine des personnes dès que la caméra apparaissait, ils se mettaient en scène, c'était très « je suis Yvon ». Je suis ici pour chanter une hirondelle a perdu son aile. Et, puis c'est ça, j'avais comme cette conversation-là avec Eric, puis je trouve que ça vaut la peine de l'explorer, ça, cette idée-là, de la distinction télé-réalité talent show.
Ben, toutes les frontières de genre, en fait, dans n'importe quel domaine, valent la peine d'être explorées, justement, parce que qu'est-ce qui crée ces frontières-là? Qu'est-ce qui fait que un genre est un genre, blablabla. Donc, si on pourrait faire une émission là-dessus.
Je pensais à faire l'émission sa soirée canadienne, effectivement.
On pourrait aussi inclure là-dedans un match de hockey, qui, dans les faits, c'est de la télé-réalité, puisqu'on nous présente un événement qui est filmé et qui les caméramans ne savent pas ce qui va se passer. On ne sait pas qui va remporter le match en question. Pareil pour les Olympiques, d'une certaine manière.
Ah, j'ai l'impression que pour une télé-réalité, il faut quand même avoir un suivi de participants.
Mais on pourrait dire qu'il l'a avec le hockey,
avec
c'est quand 24 même...
24 CH, d'autres émissions canadiennes, il y en a, mais pas juste le hockey.
Non, la lutte professionnelle. Oui,
bon, encore la lutte.
Bien sûr.
Les racketeurs.
Quand j'ai suivi mon cours de cinéma québécois, il y a 10 ans, quand la télé-réalité commençait à pogner beaucoup, on faisait beaucoup de rapprochements entre le cinéma vérité de l'OMF.
Oui, avec Pour la suite du monde, supposons, où est-ce que les gens sont mis dans un contexte qu'ils n'auraient pas fait normalement. Ils ne seraient pas normalement allés retourner faire la pêche au marsouin.
Oui.
Puis c'est vrai. Fait que c'était comme l'ancêtre de Love Story, ça.
J'irais même jusqu'à dire que peut-être que le Québec a cette longueur d'avance à cause du cinéma direct, que même dans sa position de satiriste, le Québec connaissait tellement bien le documentaire, avait tellement exploré toutes ces facettes-là, que quand venait le temps de rire de la télé-réalité, il était déjà en avant-plan avec Louis XIX. Mm-hmm. Ouais. C'est comme tout le mockumentary aussi. C'est des formes et des genres qui sont très utilisés en cinéma québécois actuellement.
Puis aussi, si on regarde ce qui est généralement considéré comme la première émission de télé-réalité, qui était une production américaine qui s'appelait American Family en 1973. Je tire ça de Télé-réalité, quand la réalité est un mensonge, de Luc Dupont, qui est un très bon livre sur le sujet, qui apporte à la fois une perspective historique et une réflexion théorique sur ce sous-genre-là. Eh bien, si vous pouvez regarder quelques extraits sur YouTube, et le projet lui-même est beaucoup plus près du cinéma direct que la télé-réalité aujourd'hui. On sent vraiment que l'équipe était effacée derrière les sujets, ils se limitaient à les suivre. On ne sentait pas qu'ils essayaient de créer des événements pour maintenir l'intérêt du public. Et ça donne quelque chose, vraiment une impression de voir une réalité brute, un portrait familial des gens qui sont dans une situation qui aurait eu lieu même si la caméra n'avait pas été présente. Et c'est d'ailleurs la première émission en Amérique du Nord dans laquelle quelqu'un a fait un coming out en direct.
Wow! On est tous soufflés par ce bout d'histoire.
J'aimerais faire un coming out là, ça serait...
Ouais, c'est ça.
Mais je suis hétéro, guys. Un coming out hétéro. Ben, je suis un peu vite qu'un show, mais
on te supporte.
Ouais, merci.
On est
merci.
Là pour toi.
Merci, les amis.
C'est un petit moment.
Oui, il sonne la main en ce moment.
Parce que la télé-réalité, c'est à propos des vraies émotions.
C'est vrai.
Oui.
Il faut qu'on les vive, ces moments-là. Oui.
Peut-être un prédécesseur de la télé-réalité au cinéma, mais, donc pas du côté du cinéma direct. On dit que c'est un cinéaste qui a été visionnaire, qui en avance sur son temps. Mm-hmm. Je parle bien sûr de Orson Welles, qui a fait une hypothèse personnelle qui s'appelle Citizen Kane, que quelques personnes considèrent comme
c'est très
drôle que t'en parles, Julien, parce que je t'avoue être étonné que ça n'a jamais été un projet de faire un remake de ce film-là. Pour en revenir sur Monsieur Welles, curieux amalgame de sa période en film, qui toujours produit dans des conditions très européennes, et de films inachevés, parce qu'Orson Welles commençait un projet qu'il terminait pas soit par manque d'intérêt ou plus souvent par manque d'argent. Et l'un d'eux, c'est son fameux Don Quixote, qui a été terminé par Jess Franco. Il y a une scène dans ce film-là qui est un film très particulier, c'est vraiment un film essai, on a des scènes de fiction, des scènes documentaires. Eh bien, il y en a une qui est improvisée où on voit Don Quixote et Sam Pasha se promener dans Madrid aujourd'hui et accoster des gens pour leur poser des questions du genre « Avez-vous les moulins? Où est le roi? » blablabla. Et on sent là que c'est improvisé parce que d'un, les gens qui sont accostés sont surpris sur le coup, les autres autour d'eux regardent la caméra, tout le monde se demande qu'est-ce qu'ils font là, et ça ressemble énormément à de la télé-réalité. C'était la réaction que j'avais eue en voyant ce film. Une scène très brève, on parle de peut-être 5 minutes, mais qui donne l'impression que Welles avait anticipé quelque chose à venir qui allait nous mener à Célibataire et nu cette semaine. Donc Orson Welles aurait anticipé Célibataire et nu.
Un des nombreux parallèles entre les deux.
Un des très nombreux parallèles. Oui. Bon, Célibataire et nu, pourquoi en parler? Écoutez, j'étais à Plus on est de fous, plus on lit à Radio-Canada lundi, et j'ai dit à la blague, moi je voulais parler de ça en ondes. Ils m'ont dit, on a essayé, mais on s'est dit qu'il n'y avait aucune profondeur là-dedans.
C'est à peu près ça que je t'ai répondu.
Mais Sophie Durocher aimait ça.
C'est ta chance. Ouais.
C'est ma chance, et j'ai essayé quelque chose. Bon, d'abord, mise en contexte, c'était à la base une émission américaine, Dating Naked, qui a donné naissance à des séries parallèles, dont Buying Naked.
Ok, je pensais que t'allais citer Naked and Afraid, qui est, à mon avis, un
Naked and Afraid.
Ouais, c'est terriblement saugrenu.
C'est quoi, c'est des snuff movies à la télévision?
Non, c'est un Survivor entièrement.
Oui.
Et c'est ça, je pensais que la version francophone était Célibataire et nu, et qu'on avait comme un peu effacé les dangers autour, puis on avait fait comme, ok, ben... Être nu et effrayé, c'est un peu menaçant pour le public. Fait qu'on va juste nu et célibataire.
Ah, ben c'est, ouais. Dating naked a plus de rapport.
Faut que c'est constamment effrayé.
Ouais,
c'est naked, imagine des maisons, genre, c'est quoi?
Oui. Ouais, tu vas acheter une maison tout nu, tu vas acheter une voiture tout nu. D'ailleurs, il y a un drôle.
C'est pas illégal, ça.
C'est pas inélégant aussi.
Ben, d'ailleurs, c'est un des trucs qui est assez drôle dans Célibataire et nu, c'est qu'ils font des activités. Donc comme la trampoline et le barbecue. Et personnellement, jamais je ferais un barbecue nu.
Moi, c'est la trampoline.
Il y avait dans l'épisode de Seinfeld aussi où est-ce que sa blonde était tout le temps nue, puis que ça l'énervait parce qu'il y a des situations où est-ce que c'était pas sexy, genre quand on ouvre un pot de pickle tout nu. T'es comment, tu peux l'avoir de même dans ces...
Faire de la balado nu aussi, c'est pas...
Oh boy.
C'est on le fait à décider, par contre.
Mais d'un point de vue... théorique, si on veut, ce qui est intéressant de Célibataire et nu, c'est que de quoi on accuse souvent la télé-réalité? De voyeurisme.
Oui.
Et on accuse les participants d'être des exhibitionnistes. C'est des gens qui veulent se montrer. J'imagine, Julien, que tu serais un peu d'accord.
Oh, je suis bien exhibitionniste. Oui.
Et n'avons-nous pas ici le paroxysme de cette critique, avec justement des gens qui vont littéralement se mettre à nu et se présenter dans toute leur intimité. À cela se pose la question, qu'est-ce que la nudité apporte de neuf? Absolument rien.
Quand, je l'ai pas écouté, est-ce que c'est censuré sur le web?
Les parties intimes sont brouillées, mis à part les fesses. Donc, on nous...
Donc oui, ça apporte rien, effectivement.
Est-ce qu'on pourrait se masturber en écoutant ça?
Pourquoi pas, mais t'sais, on peut se masturber devant tellement de choses de nos jours. Ouais. Mais en fait, quelque chose qui m'a un peu frappé, c'est à quel point l'émission évite l'érotisme. On tente pas de nous montrer les sujets nus à leur avantage. On les montre vraiment comme si de rien n'était. Les sujets sont même très à l'aise entre eux, ce qui me laisse croire qu'ils ont dû passer plusieurs heures ensemble avant qu'on allume les caméras. Okay. Bon, il y a des blagues sur le fait qu'un des participants a de la misère à contrôler ses érections.
Oh, pas
Alexandre.
Et un autre...
Je connais son nom, parce que j'ai lu l'article dans
Un
sac de chips.
Ok, je pensais que t'es comme... Ah, oh, je suis allé au
cégep. Et un autre a eu de... En fait, je pense que la référence la plus explicite à la nudité, mis à part les érections, c'est le fait que un des participants, lui, malheureusement, il a pas rencontré la femme de sa vie. Il a rencontré une guêpe qui s'est posée sur son gland et qui a fait pic-pic. Et ça, on
sur
en parle.
Sur le gland?
Oui. Ça doit faire...
Mais ça a l'air d'une fraise. Ça a tout...
Ouais, la, non, je cherchais pas la raison pourquoi l'abeille a fait ça. Là.
Okay, moi, je voulais la psychologie de l'abeille.
Okay. À quoi t'as pensé, ça?
Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est des conversations bêtes, comme on a très souvent entendu dans Occupation Double.
Les conversations tournent plus autour de la sexualité que d'autres.
Exactement.
Quand même que d'autres émissions.
Oui, mais ça, je suis pas très familier, en fait, avec Love Story. J'ai regardé quelques épisodes il y a des années.
Un peu plus. Là,
des années de ça. Ben, je serais porté à penser que oui, compte tenu du fait qu'ils sont nus, donc forcément, le sujet est mis sur la table et ça donne des petits moments d'anthologie, dont cette femme qui parle de BDSM alors que en train de faire un barbecue, qu'elle, elle aime ça, se faire attacher, se faire fouetter. Et la réaction des hommes avec qui elle parle est assez étonnante. Ils sont tous surpris. Et c'est assez évident que cette femme-là, elle a été choisie pour ça. Mm-hmm. Parce qu'elle a un franc-parler, elle a pas peur d'aborder ces sujets-là. Aussi, je sais pas comment ça fonctionne avec les metteurs en scène. Peut-être, Julien, tu vas être capable de répondre à cette question-là, mais sur le plateau d'une émission de télé-réalité, on est d'accord que vous n'êtes pas laissé à vous-même.
J'ai une réponse pour toi, Simon.
Et on l'écoute.
Est-ce qu'on vous invite à aborder certains sujets?
Il y a un réalisateur, évidemment. C'est toujours des réalisatrices sur Un soir, ce qui est parfait. T'sais, supposons, dans le cas d'Un soir, ce qui est parfait, ce qui est la narration d'André dans ce qu'on voit à l'émission, ben, c'est les gens qui te parlent en même temps. Puis c'est la réalisatrice qui te parle puis qui te fait parler. Là, avec moi, je pense, dernièrement, j'ai participé au Wall Star, j'ai pas le droit d'annoncer. Fait que je viens pas de dire ça. On l'a refilmé encore dernièrement, puis là, ben, supposons, je mettais du maïs à mon repas, puis je disais, pour mettre ça, faut vraiment que je maïsse, tout ça. Puis je faisais bien des blagues, puis c'est fun avec toi, Julien, parce qu'on te laisse parler, on n'a pas de poser de questions. Mais ils te font parler. Après ça, le souper dure, dans la réalité, quoi, une heure et demie maximum. Tu sais, au final, la réalisatrice, elle regarde, puis elle retient deux moments forts qu'elle va après ça mettre à la loupe de ce qui va devenir le 7 minutes de l'émission. Si c'est plate, à mener, ils te font parler, ils font « là, gars, changer de sujet, parler d'autres choses, on n'a pas le droit. » Maintenant, on a parlé de l'Holocauste, on n'a pas le droit.
Ça serait mon instinct, moi aussi,
ouais,
d'aller
c'est ça.
Vers... Comme...
Mais t'as pas le droit de parler de sujet, dans le cas de ce que moi j'ai vécu, t'as pas le droit de parler plus de sujet trop sexuel, vu que ça jouait à 6h30. Fait que là, l'anecdote de Peter qui s'est fait tout ça dans un avion, ben là... Elle a arrêté au milieu, puis je n'aurais jamais connu la fin. Sinon, c'est pas de parler de météo, de politique. Fait qu'à un moment donné, ça devient compliqué de parler de quelque chose, puis d'être divertissant. Puis même à un moment donné, ben, dernièrement, on s'est fouetté aussi. Elle a une fille qui a amené un fouet, puis là, finalement, la réalisatrice a dit « Ah non, ça passera pas, ça, on peut pas passer ça. » Fait que, ouais, il y a l'éditorial là-dedans.
On est dirigé,
mais
c'est
sûr. Mais le fait que les personnes qui sont choisies sont manifestement choisies aussi parce qu'ils sont des contrastes l'un de l'autre, dans Super Presque Parfait en particulier, c'est sûr qu'ils espèrent que les conversations se poursuivent de manière un peu naturelle, j'imagine.
Non,
avec
c'est ça. Si c'est cinq personnes qui pourraient être amies dans la vraie vie, ça va être plate dans un style show.
Oui, c'est ça. Ben, précisément.
C'est aussi ce qu'ils ont fait avec le premier épisode de Célibataire et nu. C'est vraiment des personnalités très différentes l'une de l'autre.
Donc, est-ce qu'il y a un enjeu? Est-ce que des gens se font éliminer?
Non, c'est que...
Ils sont juste tout nus.
Ils sont tout nus et c'est dans l'optique de rencontrer l'âme sœur. Ils vont discuter ensemble. Ils les mettent en couple et là, ils vont discuter. Là, les couples vont changer une sorte de partie de chaise électrique, là, où... C'est pas le nom du jeu.
Non, mais tout nu, c'est encore plus fun.
C'est encore plus le fun.
C'est le fun. C'est la fille qui aime le BDSM, là, c'est parfait.
Mais la question que je me pose maintenant, c'est à quel point le public réellement va suivre, parce qu'une fois que le concept s'essouffle, à moins que des individus louches comme Julien se présentent éventuellement à cette émission-là, j'ai l'impression que l'intérêt ne sera pas maintenu en dehors de ce qu'on pourrait appeler le freak factor de Célibataire et nu. Je serais très étonné qu'il y ait une seconde saison. Je pense qu'on va se lancer très rapidement genre de cette émission.
Ben, je sais pas s'ils font des secondes saisons en Musique Plus encore, de toute façon. Mm-hmm.
Okay. Puis en même temps, on pourrait être très surpris. C'est ce genre de truc-là. Il y a des événements, il y a Duck Dynasty, je crois pas que Honey Boo Boo, ça soit des trucs qui ont été vraiment calculés non plus. C'est aussi un des trucs qui est très intéressant par rapport à la télé-réalité, puis qui a été souligné dans un article de Grant McCracken, que je trouve qu'il y a le meilleur nom au monde, qui s'intitule « Why Reality TV Doesn't Suck and May Actually Make Us Smarter ». Fait que un titre qui synthétise la thèse de l'article. Essentiellement, qu'est-ce qu'il dit, c'est que le facteur d'intérêt dans la télé-réalité, c'est l'imprévisibilité. Et que l'imprévisibilité mène inévitablement à une plus grande complexification des schèmes narratifs. On a compris comment raconter une histoire. Maintenant, si on met l'aléatoire humain là-dedans, voyons voir qu'est-ce qui peut en arriver. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu mets Julien autour d'une table dans un souper?
Puis c'est quand même la réalité pareille. Les gens, on a parlé beaucoup de mon émission quand ça a été diffusé. Il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet. Puis certaines personnes me demandaient si c'était stagé ou c'est pas... C'est pas stagé, oui, on est dirigé un peu, comme j'expliquais tantôt, c'est sûr, on... Puis après, c'est un montage, ils gardent ce qu'ils veulent, ils gardent pas trop ce qu'ils veulent pas. Mais c'est quand même les vraies réactions de vrais gens qui sont réellement complètement différents, fait que ça fait ces confrontations-là. Moi, j'étais chanceux d'avoir une gang de freaks aussi dans ma semaine, ben, comme j'imagine chaque semaine. Fait que ça donne le show que ça a donné, mais il y a rien de stagé. Puis moi, je l'ai vécu comme une performance artistique, là. Ouais. J'allais dans une compétition culinaire sans savoir faire à manger.
Est-ce que t'as été recruté ou c'est toi qui...
J'ai comme bypassé, en fait. Sinon, j'aurais jamais pu passer là. C'est parce qu'ils prennent pas des gens, probablement qui savent pas faire à manger.
Oui.
C'est ça qu'on n'a pas eu avant. Ou des gens qui seraient là pour, entre guillemets, mousser leur popularité, ce qu'on pourrait dire que j'ai fait, mais c'est pas exactement ça, mais en tout cas. Ils prennent pas ces gens-là, généralement. C'était Isabelle Grondin, que vous devez bien connaître ici, hein, qui s'occupait de faire le recrutement de l'émission, puis à 10 jours de préavis, elle dit « Quelqu'un qui est malade, est-ce que quelqu'un, ça lui tente de faire un sourire, c'est parfait? » Puis je dis « je sais pas, c'est quand? »« Julien, faut que tu le fasses! » Fait que là, je fais la voix de Jack Dion, mais... Fait que là, « Julien, faut que tu le fasses! »
Aïe, aïe!
Fait que je l'ai fait, mais ça, j'ai pas rempli les papiers, puis là, il m'appelait, il me disait « Ouais, faudrait qu'on te voit pour une entrevue. » Genre, j'ai pas le temps. Fait que j'ai pas fait des entrevues, j'ai pas rempli les papiers.
Quand j'ai comme saboté le processus.
Ouais, c'est le loup dans la bergerie. Puis quand j'ai à l'émission, j'ai pas de four, c'est vrai, j'avais pas de four à ce moment-là. J'en ai un maintenant, pour ceux qui s'inquiètent là-dessus.
Est-ce que c'est un don qui t'a été fait?
Non, on me l'a demandé avant ça. Non, c'est ben j'ai juste changé d'appart, là. Puis celui-là n'est qu'un four.
Merci, Andy,
oui. Mais je sais plus où je le dire.
Mais en même temps, tu vois, simultanément, tu es une... un élément déclencheur quand on te met dans la situation de la télé-réalité.
Ouais.
Certaines situations vont émaner, mais aussi le succès est quelque chose d'aléatoire. Les gens réagissent. Les gens ont particulièrement bien réagi au Château de saucisse, et ainsi de suite.
Ah oui, moi, sur les réseaux sociaux même, je m'étais préparé mentalement à manger bien de la marde. Puis j'étais comme ça va être drôle, c'est bien correct. Puis même pas, finalement, 95% des commentaires étaient positifs.
C'est ça.
Puis les gens me croisent dans la rue, là, on m'en parle à tous les jours. Ouais. Depuis ça. C'est correct. Le monde pense que je suis tanné. Mais non, je suis pas tanné. J'aime ça.
Mais t'es venu. On t'a pas forcé à venir ici.
Non, j'aime ça. C'est correct. Almine, j'ai peur de me répéter un peu, mais mais les gens me croisent en rue, tout ça. J'ai eu 1000 commentaires positifs. 2 personnes qui étaient vraiment, qui comprennent pas qu'est-ce que je faisais là, puis qui étaient dépassées, puis t'es comme, mais tu sais pas faire à manger.
Concours culinaire.
Non, ben, je sais, mais effectivement, je sais pas faire à manger. Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais pas faire à manger. Mais il y a certaines personnes qui étaient dépassées par ça, mais globalement, ça s'est très bien déroulé.
C'est des gens qui devaient considérer que tu te prêtais pas au jeu, justement.
Je n'ai pas d'affaire
là. Règles.
Ouais. Je me souviens, dans un épisode de Love Story, il y avait un type, comment il s'appelait? Je pense que c'était Sébastien, son nom. Et lui, il avait dit au début de la saison qu'il était là pour semer le trouble.
Ouais.
Et il y avait des spectateurs qui étaient très, très, très fâchés de ça. Qui disaient que cet individu-là n'avait pas sa place dans le loft parce qu'il refusait de se plier aux règles de l'émission. Et ça, c'était quand même fascinant à lire. Les réactions du public face à ce joueur-là. Alors que bon, il peut le faire. Je veux dire, souper presque parfait. T'as fait un château de saucisses. T'aurais pu faire autre chose.
Mais comme tu sais, la réalisatrice, elle capotait. Elle était contente. Là, je prends mes assiettes en carton puis ma table pliante. Puis elle dit, j'ai jamais vu ça. Puis je dis, ben voyons, en 700 émissions, il y a personne qui a sorti des assiettes en carton. Je dis, ben non, j'ai rien de monde. Sont là pour gagner. C'est jamais arrivé avant que quelqu'un est là pour perdre délibérément.
Oui, alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'éventuellement célibataire et nu, quelqu'un va y aller pour rencontrer personne?
C'est ça, ça serait... Puis en même temps, tu racontes ça, puis moi je pense à la finale de Truman Show. Jim Carrey qui, à un certain point, fait « J'ai tout fait comme il le voulait, maintenant je prends la barque et je m'en vais pousser jusqu'à la limite du réel. Je vais frapper le mur figuratif et littéral du réel. Et là, je vais faire plus grand que le contexte qu'on m'offre. Il y a quelque chose de très transcendantal dans cette idée-là d'être dans un système de règles prédéterminé par un concept télévisuel et de juste faire « Regarde, je vais... » C'est drôle parce que l'image qui me vient en tête, c'est quelqu'un, par exemple, qui voudrait pousser sur les parois de la télévision. Si je verrais à la Vidéodrome, la face qui sort de l'extérieur, vraiment quelqu'un qui fait « Je vais m'amuser dans la petite boîte, je vais être le fan. » Il y a quelque chose...
Ça, je me demande si c'est quelque chose qui est possible, qui est davantage possible maintenant que ça fait une quinzaine d'années qu'on connaît bien la télé-réalité, qu'il y a des sous-genres de télé-réalité.
Je pense que les gens sont rendus plus fins.
C'est ça. Donc, on peut étirer plus. C'est un souper presque parfait avec c'était en 2005, si tu avais été là pour délibérément saboter. En 2005, je pense que ça aurait plus reçu de merde qu'aujourd'hui.
Ouais, probablement. Là, peut-être les gens, on est rendu dans une ère post...
ironique.
Ouais, post-ironique. Fait que là, ça s'est bien reçu. Je sais pas. Moi, j'avoue, je n'ai pas posé la question. Je l'avais faite en 73. Comment les gens
réagissent. En même temps qu'American Family.
Ouais, c'est ça.
Mais je me pose la question à quel point les producteurs de ces émissions-là vont permettre justement à ce que le troll devienne normal dans ces émissions-là. Mm-hmm. Je pense qu'ils vont se permettre certains écarts, justement, avec toi, Julien, par exemple.
Encore là, c'est que c'était pas prévu, moi. C'était pas, ouais. J'aurais pas passé normalement. Puis j'ai appris, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai même, dans mon cas, j'ai appris entre les branches qu'il y a beaucoup de monde qui ont pas aimé ça, là, dans la production. Que c'est pas ça le show, mm-hmm. là. Je me moquais du show, là.
J'ai pas de misère à croire. J'ai travaillé dans ces bureaux-là, puis je peux me visualiser les personnes qui
ont été déplues. Ah non, c'est ça. Mais tu sais, comme la réalisatrice.
Ils ont eu leur plus grand succès ever.
Ouais, ça a été le plus gros succès d'écoute de l'année. Mais je me dis, gars, à la limite, bon, je peux comprendre, on peut interpréter ça comme je me moque de votre émission, mais c'est pas tout à fait le cas. Puis vous avez les meilleurs codes d'écoute, animé, Calis, qu'est-ce que vous voulez. Mais non, malgré ça, je sais que j'ai pas été apprécié par plusieurs personnes puis qui ont coupé beaucoup de mes bouts. Fait que c'est encore plus weird. Puis ils voulaient pas, le premier montage avait été refusé.
Mais d'un autre côté, c'est un peu inévitable qu'il y a des gens qui forcément vont... je veux pas trop m'étaler sur le phénomène du troll, sur lequel il y aurait une émission extraordinaire absolument, à faire éventuellement, mais ça me fait penser un peu aux émissions de Ligne ouverte où ben tu donnes la possibilité à tout le monde d'appeler, ben sois pas surpris s'il y a quelques farceurs qui vont se glisser sur les lignes.
C'est ça va être aussi le meilleur moment de la soirée.
C'est ça, parce que c'est ça absolument. La réalité est quelque chose que je pense qu'il y a une pulsion humaine de vouloir aller jammer la réalité. C'est ce qu'on aime le plus faire. C'est ça, on vient à la métaphore sportive, les gens qui font du streaking, tu sais, c'est de vraiment vouloir hijacker un moment du réel. Mais je pense qu'il y a comme une pulsion de faire « Voici ce que vous me proposez comme réalité, je vais venir juste mettre le doigt, mettre le nez, ça me tente d'interférer là-dedans. »
Il y a une mode sur World of Warcraft qui consiste à se marier, donc les gens organisent des mariages, et une autre mode, c'est d'aller gâcher le mariage. Donc les gens se pointent... Des wedding crashers, ah. Oui.
Mais le troll, à ce moment-là, devient juste un autre personnage parmi
exactement.
Les personnages.
Exactement. Et pour en revenir à ce que disait Julien par rapport au code d'écoute du souper presque parfait, le public aime ça.
Mm-hmm. Ouais. Parce que ça finit par être plus réel que le réel.
Ben oui, parce que comme tu disais tantôt, c'est l'imprévu.
Ouais.
On s'attendait pas à ce que quelqu'un nous arrive avec un château de saucisses.
Ben, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça les surprenait parce qu'il y avait enfin une personne normale à l'émission, une personne comme eux autres. À l'émission parce que
bon, ça c'est un peu inquiétant.
Ouais, je sais mais bon, mais c'est quand même puis des gens puis pas juste des ados là, il y a des gens de 50 ans qui sont venus m'en parler mon bon ami Murphy avait écrit un article cette semaine-là là-dessus, disait que j'étais la personne qui avait pas d'affaires dans ces émissions-là puis que pourtant devrait y être. C'est tout le temps des Jonathan puis des Peter qui sont là puis j'ai rien contre eux, c'est pas ça que je dis. C'est toujours des gens de même un peu qui est tout le temps ces émissions-là comme si on était tous habitués que ce soit juste ça qu'on voit quand en réalité ces gens-là on les côtoie pas dans la vie, on les côtoie. Moi je fréquente pas ces gens-là.
Mais c'est une intéressante torsion parce que il y a pas de personne authentique en télé-réalité.
C'est
déjà
ça.
Cette phrase-là, je
me dis, imagine s'il y avait un Jean-Michel dans une télé-réalité, tu sais, ça serait fucking...
Difficile à monter.
Oui.
une des promesses de célibataire et nu, c'est de ne pas être hétéronormatif, donc il va avoir des... Oui, ça, il l'a annoncé. Et des gens de tout physique.
Ouais, ben là, j'espère.
Mais là.
Mais moi, je l'ai pas écouté. Est-ce que c'est vrai?
Ben, pour le premier épisode, oui. C'était que des hétérosexuels.
Ah, et ça change de personne? Ça,
oui, oui, oui. Donc, ouais, ouais, il y aura. Tout le monde peut se mettre tout nu. Tout le monde tout nu.
Et je me souviens de la période de recrutement, là. Ça,
qui a duré tout l'été.
C'est ça.
Jusqu'à la diffusion du premier épisode, il y avait encore les publicités pour recruter des gens, alors que, bien évidemment, que les émissions avaient tous été déjà enregistrées, donc c'est simplement pour faire.
Mais j'ai une question d'ordre, comme vraiment de base. Donc, à chaque semaine, c'est des nouvelles personnes,
oui,
qui sont.
Des tenues. Nouveaux célibataires, oui.
Puis à chaque fois, sont supposés. Parce que je pensais qu'on suivait les mêmes de semaine en semaine, OK.
C'est, non, des...
c'est particulier, ça, parce que ça ne crée pas, ça fidélise pas ton auditoire, parce que tu veux pas savoir qu'est-ce qui est arrivé à Jean-François qui bande tout le temps. Excuse-moi.
Non, effectivement, à moins qu'ils vont peut-être faire éventuellement un best-of où ils vont ramener des spectateurs, des participants.
Nos préférés, nos joueurs.
Oh, best edition.
Ouais, 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 comme ils avaient fait avec Love Story pour la dernière saison.
Ils vont enlever faut que tu enlèves la pixelisation. Là.
Je sais pas s'ils ont le droit.
Je penserais pas qu'ils aient le droit.
Si tu le vends au privé, oui.
Tu vas faire ça. S'ils sortaient des DVD, oui.
Oui, c'est ça, exactement. Une version.
Ah, la uncensored en DVD, oui.
On veut du tout nu.
Ben, en couple et habillé.
En couple et habillé, oui.
J'écouterais ça.
Tu viendras choper chez nous.
Ben absolument. Ouais. ça ressemble à ça.
Et donc, ils ont dit aussi de tout physique. Donc, il y aura pas que des, justement, comme tu disais, des Jonathan ou des du bon monde. Un souper presque parfait. D'ailleurs, il y avait un handicapé dans le premier épisode, ce qui était quand même... assez audacieux, mais encore là, est-ce que cet individu-là, c'est pas l'exception qui va confirmer la règle que la promesse qui a été faite ne sera pas tenue? Est-ce qu'on... ça reste à voir. Est-ce qu'il y aura réellement quelqu'un qui pèse 350 livres qui va être à célibataire et nu? Pourquoi pas? Mais la question maintenant, c'est comment il les sélectionne, ces gens-là? Et ça, dans toutes les téléréalités, je me suis toujours posé cette question-là. Parce que, bon, d'une part, il y a ceux qui veulent participer, qui vont passer les auditions, mais qu'est-ce que les producteurs de ces séries-là recherchent comme individu, mm-hmm, pour être le sujet de leur émission? Sur quoi est-ce qu'ils se basent? Bon, si on pense à Big Brother, il y a plusieurs années, là, c'était évident, ils étaient tous beaux. Ils ont tous été pris visiblement pour ça. Aussi, je pense qu'ils grattent un peu sur le passé. Ça a l'air que, j'avais lu un article sur Crack là-dessus, ils font de longues enquêtes sur les personnes choisies pour s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaises surprises.
Malgré que les mauvaises surprises pourraient se traduire comme des bonnes cotes d'écoute, c'est drôle.
Non, mais de toute façon, la personne s'avère être un pédophile.
Ouais. Si tu me permets, c'est drôle parce que tantôt tu disais que l'idée qu'il soit tout nu, ça changeait absolument rien.
Moi, j'ai pas vu de vraie différence entre ça et un épisode d'Occupation double.
Peut-être pas dans le fond. Mais dans la forme, ça l'est. Puis c'est drôle parce que juste avant, t'as dit tu t'es comme un peu répondu par rapport à ça. Puis je trouve que ça mérite d'être souligné parce que c'était très intéressant. C'est cette idée-là que célibataire et nu fonctionne sur les deux registres de la vulnérabilité. C'est vraiment une télé-réalité qui est déjà de s'exposer et donc de se rendre vulnérable. Mais la nudité étant l'ultime vulnérabilité sociale, peut-être pas l'ultime, là, il y en a d'autres, mais en est dans les très gros. Fait que tu sais, c'est une télé-réalité qui, oui, on le sait, on est des exhibitionnistes, oui, on le sait, on est des
voyeurs.
Des voyeurs, exactement. On va pousser l'enveloppe là-dessus. Puis si tu me permets, par rapport à ça, parce que ça fonctionne un peu par rapport à ce que moi je voulais parler avec le truc que j'étais très content d'appeler Pursed First, la télé-réalité métafictionnelle de RuPaul's Drag Race, comme Hélène le disait, un espèce de niveau de compréhension de où on est rendu avec la télé-réalité. Célibataire et nu aurait probablement pas émergé tout de suite après Survivor ou tout de suite après...
Je crois pas, non.
Il faut avoir certaines strates de raffinement et de réflexion sur le genre pour être capable d'arriver à ça. Est-ce que vous connaissez un peu la télésérie RuPaul's Drag Race?
Non.
Ça va me faire terriblement plaisir de pouvoir vous en parler parce que c'est un secret que j'aime. Ah, ça vaut la peine de le mentionner maintenant parce que c'est la 8e saison, enfin la 9e saison va commencer le plus rapidement possible, s'il vous plaît. C'est la première nomination pour RuPaul en tant qu'animatrice.
Au Emmy?
Oui, exactement. Au Emmy qui se déroule dimanche dans deux semaines. Et tous mes espoirs vont dans la victoire de ce show.
Go, go, Ru, on est avec toi.
Parce que cette animation-là, elle est sans faille. C'est hallucinant comment le concept de l'émission et le contexte de l'émission reposent sur la grande reine du drag.
RuPaul, oui, c'est clair. Là, oui.
Inimitable. La quintissime RuPaul, qui est la conceptrice, productrice, animatrice de cette émission-là, qui, comme je vous disais, se déroule depuis 8 ans, maintenant a une deuxième émission qui s'appelle RuPaul's All Stars. Rapidement, pour vous décrire le contexte, c'est que on commence avec une troupe de drag queens de partout à travers les États-Unis et un peu en Amérique latine, qui sont en compétition, essentiellement, pour le titre de America's Next Drag Superstar. L'émission se sépare en 3 parties. La première partie est un mini-challenge, qui est, comme le titre l'indique, un mini-défi, qui exploite une des forces ou une des aptitudes que l'on doit avoir pour être une drag queen chevronnée. Donc, maquillage, capable de conceptualiser rapidement des costumes, la
marcher
verve...
Marcher sur des talons hauts.
Non, ça, c'est de l'acquis. Si t'es pas capable de marcher sur des talons hauts, ça part très, très mal.
Je serais déjà disqualifié pour...
Sauf pour la 8e saison, Kim Chi, qui est une drag queen coréenne, beaucoup plus massive.
Les chats sont à... négocier.
C'est ça, c'était un peu plus difficile. Donc, le mini-challenge, ça offre l'opportunité de, plus souvent qu'autrement, d'être le capitaine de l'équipe pour la grosse compétition. Et la grosse compétition, celle-là, c'est vraiment quelque chose du registre du pageantry. Donc, on doit mettre en scène, on doit faire un spectacle. Mon préféré, de loin, c'est un mini-challenge qui commençait, qui s'appelait Gone with the Windows. Donc, on devait se faire une robe d'une draperie de fenêtres. Et là, t'as plein de drag queens qui courent pour attaquer des fenêtres, pour arracher les draperies, pour se faire des robes. Le challenge majeur, le deuxième, c'était une séance photo où l'on devait poser, embarquer sur un canon. Donc, c'est des drag queens qui sont embarqués sur un canon. Puis, imaginez les situations loufoques.
Oui.
La situation est doublement loufoque parce qu'il y avait un ventilateur haute performance qui simulait le vent dans leur visage. Le truc, c'est que ça avait été très bien calculé par RuPaul et son équipe que les cils, les faux cils, prennent énormément dans le vent. Donc, les photos étaient hilarantes. T'avais des drag queens sculptural, extraordinaire, dans des super belles robes qu'ils ont conçues elles-mêmes en très peu de temps.
Je vais participer à ça, ça a l'air
fun. Avec l'œil qui... Rire à plus en finir. C'est épouvantable comment c'était drôle. Pour ce challenge-là, il y aura une personne qui gagne et 2 personnes qui perdent. Les 2 personnes qui perdent vont en élimination. L'élimination s'appelle Lip Sync for Your Life.
Oh.
Et là, il y a une compétition.
Ça m'intéresse.
En bonne et due forme.
Performance de drag queen.
Exactement. Là où RuPaul devient métafictionnel, à mon avis, il faut aller vers Baudrillard, notamment dans Simulacre et Simulation. Je vais vous rappeler très rapidement les catégories de l'image. L'image est une réflexion d'une réalité profonde. Chez Baudrillard, l'image peut masquer ou dénaturer la réalité profonde. Le 3e niveau, c'est l'image masque l'absence de la réalité profonde. Et la dernière, c'est l'image a perdu toute connexion à la réalité, quoi que ce soit. À mon avis, la télé-réalité a passé à travers ces registres-là. On s'est rendu à « Ok, je connais ces gens-là, pignon sur rue. » Et de moins en moins, parce que le pignon sur rue, c'est l'exemple le plus local, donc je vais pour ça. Je les reconnais moins en moins, c'est moins des gens que je côtoie. Je commence à être de plus en plus orange, je commence à agir de plus en plus épais. Là, on crée une suspension de ces gens-là n'existent pas pour de vrai. On a mis en scène un humain qui n'existe plus. Et quand ça devient un niveau d'absurdité, on décroche littéralement, comme cette Française qui croyait à l'impossibilité de la Lune. Ou quand cette dame-là a fait une démonstration d'ignorance invraisemblable, les gens ont fait « Non, on a balancé dans un autre registre la télé-réalité. Tu ne peux pas avoir une aussi magnifique pain-bêche. »
Je pense pas que la télé-réalité d'aujourd'hui tente de documentariser le réel comme le faisait Pignon sur rue et American Family. On est vraiment dans l'optique du divertissement. Je veux dire, qu'est-ce qu'on retient d'un épisode d'un souper presque parfait? Ben, on regarde pas ça pour s'informer sur la jeunesse québécoise. On le regarde pour s'amuser,
oui,
pour
exactement.
Rire.
C'est là où le contrat s'effectue à la 4e étape, que l'image n'a plus de référent direct à l'humanité. On a totalement déconnecté le signifiant du signifié, puis c'est comme fuck it. Le truc avec RuPaul, c'est que on a tellement été loin encore pour venir à Truman Show, on a tellement passé, on a mis la barque, on a passé à travers le mur, on a rencontré Ed Harris, puis on a continué la télésérie, que maintenant, il y a un deuxième registre de l'image. Puis le deuxième registre de l'image provient du fait qu'on gère avec des drag queens. Donc, le réel de RuPaul's Drag Race, c'est les personnalités qui sont créées par ces hommes-là, les personnalités féminines. Mm-hmm. La mise en scène est plus importante et est à double registre. C'est pour ça que je commence à dire qu'il y a comme une ultra-conscience métafictionnelle, parce que ils ne sont plus des hommes, ils sont les personnages, ils sont Bob the Drag Queen. Ils sont Bianca Del Rio, Sharon Needles, Violet Chachki, Jinx Monsoon, Tyra Sanchez. C'est des gens qui viennent pour
comme leur personnage.
Pour démontrer comment leur personnage est plus réel que l'individu qui est derrière.
Est-ce que par hasard, leur véritable nom est mentionné à quelques moments?
À la sauvette, souvent par erreur.
Est-ce qu'on les voit sans costume?
Oui. Dans à la confession, il arrive à plusieurs moments qu'on les voit
Donc, justement, il y a le double niveau. On joue dessus, c'est admis.
Oui, c'est totalement ouvert. Puis c'est ce qui est incroyable, parce que dès l'introduction, dès le début de la première, le premier épisode de chaque saison, les personnes se présentent en décrivant leur parapersonnalité. Moi, je joue elle. Elle est comme ça. Et on peut juger littéralement, et RuPaul le fait...
Mais on peut tous la même personnalité, les drag queens.
Non.
Non, hein,
ça, c'est extraordinaire.
Je savais que t'allais me contredire là-dessus.
C'est ça, c'est que...
Bon, c'est tout le temps la même affaire, un peu.
Non, parce que Sharon Needles est une goth queen à l'os.
Okay.
Tyra Sanchez est vraiment très jeune. T'as Jinx Monsoon, que je pense que t'aimerais particulièrement, une bostonnaise narcoleptique, juive.
Ça me plaît.
Bianca Del Rio, qui est vraiment l'archétype du stand-up juif des années 30 en femme.
Ah bon?
Et là, cette année...
On a passé à Montréal, les drag de même.
Ça. Bob the Drag Queen. Son nom de scène, c'est Bob the Drag Queen, qui est un jeune homme afro-américain qui a gagné. Là, tous les gens que j'ai mentionnés, c'est des champions. Donc, tous ces niveaux de... le registre du « je me présente ». Je ne suis pas mon impératif biologique. Je suis cette personne-là. Et RuPaul et, évidemment, Santino Rice, toute la gang qui est venue avec eux autres, jugent les drag queens pour leur talent, évidemment. Mais il y en a qui sont pas capables de faire des robes qui arrivent en finale. Mais jugent sur la cohérence entre la volonté de faire le personnage et l'exécution du personnage. Fait que dans cette télé-réalité-là, on se retrouve avec énormément de strates de réalité. On peut voir à travers les coulisses de la coulisse de la coulisse de la coulisse jusqu'à temps qu'on voit la création d'un individu complet, puisqu'il y a des gens que j'ai l'impression d'avoir côtoyé intimement, malgré que c'est pas particulièrement vrai, là. Il y en a aucun que j'ai rencontré, malgré qu'ils viennent toujours à Montréal.
Mais t'aimerais ça. Hein?
J'aimerais ça, ça serait complètement fou, mais qui ont transcendé. Puis c'est là-dessus que je voulais conclure, c'est dire la télé-réalité transcendantale. On arrive à ça, avec cette espèce de registre de métafiction poussé à l'absolu.
C'est intéressant.
Merci. Intéressant, c'est une affaire. Ce que je veux, c'est que vous ayez tout écouté, parce que c'est tellement bon.
Bon, on va regarder ça sur Terre.
C'est malade. C'est sur le logo. C'est hallucinant. Puis, si vous ne l'avez pas écouté, au moins envoyez les bonnes vibes pour RuPaul, pour l'ami.
Ça, comment qu'on fait pour faire ça?
Juste comme pense-y. Ça.
OK, faut que je pense.
Pense-y.
OK, moi, je pense tantôt. Là.
Ouais. Okay. Petite direction, puis tout.
OK.
D'accord. Moi, je voulais aborder un autre point de vue des télé-réalités. J'en ai pas écouté tant que ça dans ma vie, mais c'est j'ai lu un texte de Alison Hearn il y a quelques années qui m'a quand même profondément marqué. Les questions de télé-réalité sont très liées aux questions de célébrité. C'est dans un cadre d'un séminaire sur la célébrité que j'ai lu ça. Et il y a plusieurs personnes qui, dans leurs auditions, présentent le fait qu'elles doivent participer à cette télé-réalité-là pour devenir célèbres, pour... c'est comme dans leur destin. Il y a quelques exemples au Québec de personnes qui sont effectivement devenues célèbres avec la télé-réalité. Marie-Pierre Morin, peut-être récemment, qui a participé en premier lieu à Occupation Double, si je me trompe pas. Marie-Mé, qui est une chanteuse vraiment très populaire, qui a commencé avec Star Academy. Donc, il y a quand même une certaine motivation. Puis, on a parlé aussi à quel point la télé-réalité présente des personnages. Ça, OK, on le sait déjà, c'est même depuis tout le début. Mais pour présenter ces personnages-là, pour être ces personnages-là, les individus qu'on voit, les participants à la télé-réalité, performent un travail. Et là, je vais vraiment aller dans le travail de Alison Hearn. Et c'est un travail qui est conscient, qui relève d'une gestion d'une persona publique, donc de comment on se présente au monde. Et cette persona publique peut être basée sur différents modèles du « soi », entre guillemets, qui sont déjà fournis, déjà disponibles dans la culture médiatique, l'industrie culturelle ambiante. Donc ça, c'est quand même une grosse hypothèse, donc je vais prendre le premier bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ces fameux différents modèles du « soi ». Donc, On l'a déjà dit, la télé-réalité existe depuis maintenant un bon moment, depuis presque une vingtaine d'années, au point où des modèles de personnalité de télé sont déjà établis, sont un peu comme cryogénisés, que qu'Alison Hearn dit, sont moulés sur des conventions connues. D'ailleurs, dans les différentes auditions, souvent c'est intéressant de les voir parce que les personnes vont directement au but et disent tout de suite leur personnage. Je suis née à Montréal, j'ai 35 ans, je fais du air guitar. Tu sais, comme ça définit tout de suite qui je suis. Puis il y en a d'autres
quand
qui vont
beaucoup
dire...
plus complexe. Hein?
Bien sûr.
Il s'est repris dans les émissions si... aussi, quand il se présente, ville, profession. Bon, t'es prêt. Bienvenue
oui,
dans le loft.
Même dans la petite caption là, pour présenter, chez une occupation d'hommes, comme Nancy, 24 ans, coiffeuse, là, c'est
oui. Ah oui, moi, j'avais dit poète, puis ils n'ont pas accepté.
Vlogueur, qui était
c'est ça. Ben, la première fois que j'avais écrit, la première fois que j'ai participé, j'ai écrit poète vlogueur. Là, ils m'ont dit, ah non, tu peux seulement mettre une profession. Je dis, bon, ben, voilà. Vlogueur. Puis là, je l'ai refait, puis là, j'avais dit, bon, ben, là, mettez poète. Puis là, ils ont dit oui. Puis là, deux jours après, ils m'appellent, ah non, on peut pas mettre, t'es pas poète. Ben là, si on extrapole, je suis un peu poète, là. Puis non, ils voulaient pas. Fait que c'est encore vlogueur.
OK. Mais les modèles qui sont là, les modèles de soi qui sont là sont quand même présents pour attirer l'attention. Les personnes sont choisies parce que il attire l'attention et donc aussi pour générer des profits parce que le but c'est tout le temps d'avoir des codes d'écoute. Mais tout ça, ça fait en sorte que la télé-réalité pris comme un grand genre nous raconte des histoires et comme téléspectateurs, on décode ces histoires-là facilement quand on connaît les personnages, on connaît les conventions, on connaît les conventions aussi de la narration et donc en se sentant immergé dans cette vraie fausse fiction. Le téléspectateur se sent souvent complice, donc brillant aussi, comme « Haha, je peux décoder, qu'est-ce qui se passe? Je veux voir, comme je peux comprendre les ficelles. » Donc, il y a comme une satisfaction qui est tirée de regarder la réalité.
Ça me rappelle Fort Boyard.
Ouais.
Parce que c'était des célébrités qui participaient au jeu, donc c'était vraiment fascinant de voir comment réagissait, je sais pas moi, un humoriste quand il était pitché dans la cage au serpent, ou le suspense des tigres à la fin.
Félindre.
Oui, oui.
Feu la boule.
Puis Hearn continue en parlant que justement ces histoires-là valident des scénarios, ça valide aussi une certaine culture. En fait, selon elle, ça valide l'économie de la surveillance et le branding de soi. L'économie de la surveillance, on n'a pas besoin beaucoup d'en parler. Je pense que qu'est-ce qui est finalement de se rendre compte qu'on est tout le temps surveillé, qu'on a tout le temps une caméra sur nous, ça fait en sorte comment qu'on est très conscient de cette construction de personnages-là, donc beaucoup de discipline. Et le branding de soi, c'est quelque chose de même quand même d'assez récent. On devient des entrepreneurs de soi, on se charge nous-mêmes des diverses significations cohérentes qu'on démontre pour prouver qu'on est bon, pour prouver particulièrement qu'on est bon, des bons travailleurs. Donc, Alison Hearn a vraiment beaucoup parlé de ça dans son article, dont le nom est super long, fait que je vais pas le dire, mais si vous avez des questions, écrivez-nous sur Facebook. Et dans les médias, les industries culturelles, il y a déjà plein de modèles comme ça qui sont disponibles, et donc ça fait des modèles qui sont justement déjà disponibles pour qu'on puisse se brander et qu'on puisse aussi être surveillé. Et moi, j'ai l'impression que cette double légitimation-là a réussi, et mon hypothèse, c'est que les réseaux sociaux d'aujourd'hui, particulièrement Facebook, est comme une télé-réalité ultime où on se charge justement d'avoir... on est tout le temps surveillé par les autres et on se charge d'avoir des significations spéciales qui sont accolées sur nous.
Ah oui,
voilà, c'était ma conclusion.
Bravo. J'écoutais, ça faisait penser effectivement à Facebook, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est le Jean Bernatchez de Facebook qui est allé à ce presque parfait, supposons.
Mm-hmm. C'est
Pape Choufleur, le clown, le crétin.
Le poète vlogueur.
Le poète vlogueur, c'est ça. C'est pas le...
pas celui qu'on croise à ton travail.
Non, pas lui, non. Non, mais ça mélange les gens beaucoup, ça, d'ailleurs. Ça.
Mais c'est vrai qu'on suit parfois des conversations Facebook de la même façon qu'on va suivre une télé-réalité. Mmh. On va même en parler entre nous. « Ah, t'as-tu vu qu'est-ce que tel a posté? »« n'est plus en couple. »
Nancy Houston, c'est la meilleure conclusion que je peux imaginer. Vraiment une ouverture incroyable. Hélène, merci, t'es une déesse.
Le mot est fort, merci. Mais
une BS? Ah, une DS, pardon. OK, excusez-moi.
C'est une plateforme Nintendo.
Ouais. Simon, toujours agréable de te voir à Choc. Julien, agréable que Choc t'ait.
Moi, j'ai un plan de participer à toutes les émissions de Choc.
Malade!
Fait que là, ça va bien. Je fais les oubliettes, Mission Détonnant, bien sûr. C'est thématique, vous autres. Je vais toutes les faire.
Passez une très belle semaine, tout le monde.
Merci
sérieux,
beaucoup,
l'équipe, vous
Jim.
Êtes hallucinants. Je vous aime, c'est fort. On va aller écouter Blue Toucan.
D'accord.
Pourquoi pas? Sign about the way that it should be.